Voilà, chers amis, aujourd'hui nous avons le dernier cours, le dixième cours, sur duperie et faux savoir. Alors vous avez la feuille de route, n'oubliez pas de la prendre. Vous avez aussi le plaisir de trouver le programme du semestre prochain, qui a été élaboré par notre informaticien Christophe Massé, qui se trouve là au fond. Et Christophe, je t'avertis que je suis bien occupé à enregistrer. C'est bon, j'enregistre. Alors, vous voyez sur votre feuille de route que dans une première partie, je vais regarder quelques faits contemporains très rapidement et puis m'appuyer sur la pensée de Hannah Arendt que j'ai essayé de schématiser sur ce petit tableau. Et ensuite, je vous présenterai très rapidement, bien sûr, deux penseurs cyniques contemporains, c'est-à-dire Harari, que beaucoup connaissent. Voilà trois livres ici, sur cette table. Ce sont les best-sellers absolus de, pour l'instant. Sapiens, Homo Deus et 21 leçons sur le 21e siècle. Et ensuite, Peter Sloterdijk, moins connu, mais tout aussi cynique, si pas plus. Et je vais vous expliquer pourquoi donc je l'ai choisi. Et d'ailleurs, je fais déjà une petite allusion au semestre prochain. Il y a, si vous voyez bien, le mercredi soir à 20h30, il y aura lecture de textes datés contemporains. Eh bien, donc ce sera l'abbé Benoît de Banst et moi-même qui assumerons ces 9 rencontres. 2 rencontres pour un auteur, 2 pour un autre, 2, donc 4 auteurs que nous prendrons, et puis une reprise finale. Et parmi ces 4 auteurs que nous prendrons, nous aurons en tout cas ces 2-ci. Mais nous les prendrons après Pâques, pas avant. Avant, je dois encore choisir, mais peut-être ce sera Dawkins. On verra. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, quelques faits contemporains. Le négationnisme. Le négationnisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une attitude qui consiste à nier des faits historiques considérés par d'autres comme parfaitement établis. Alors, on entend dire parfois, et ça nous étonne, si on est évidemment convaincu du contraire, certains néo-nazis, certains fascistes, certains genres d'extrême droite qui disent que les camps de concentration nazis, par exemple, n'ont jamais existé. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Comment peut-on prétendre une chose pareille? Alors il semble bien que plus l'affirmation est forte ou la négation est forte, plus on est ébranlé, même dans sa conviction, qu'ils ont existé. C'est justement cette audace qui fait que, on est ébranlé par cette idée négationniste. On se dit, est-ce que c'est bien possible que tout ça n'ait été que un montage Voilà. Eh bien, il y a des gens, en effet, qui sont capables, publiquement, de nier la Shoah, par exemple. Nous savons bien que les camps de Goulag, par exemple, pendant tout le régime soviétique, ont été l'objet d'un grand secret. Mais après, évidemment, les choses ont été connues, mais des gens parviennent à dire que non, soit on minimise, soit carrément on nie. Alors, est-ce que c'est bien possible d'adopter une attitude pareille? C'est ça la question du négationnisme. En fait, il faut dire que la première génération de ceux qui ont réchappé à ces camps est une génération honteuse. C'est une génération qui n'a pas voulu parler de ce qu'elle avait subi. C'est une génération qui a été tellement traumatisée, et là vous avez le psychiatre Boris Cyrulnik qui a beaucoup travaillé cette question-là. Boris Cyrulnik, qui lui-même a été un enfant juif qui a réchappé à plusieurs choses, qui est devenu psychiatre ensuite, qui a étudié le traumatisme et la résilience. Et justement, cette réaction de ne pas parler de ce qu'on a subi, que ce soit un camp de concentration, mais que ce soit aussi n'importe quel traumatisme, eh bien c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une honte d'avoir été humilié à ce point-là, et le raconter, c'est de nouveau essuyer la même humiliation et peut-être même entrer dans la même angoisse qu'on avait lorsque on a vécu cela. Donc on tait ces choses-là. Et le fait justement que toute une génération ait tué ces questions-là fait que à la seconde génération, à la troisième génération, bon, on se met un peu à investiguer et certains peuvent dire si on n'en a pas parlé pendant 20 ans, 30 ans, c'est que donc il n'y avait rien. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt? Donc il y a une raison compréhensible au niveau psychologique sur ce silence des victimes après tous ces camps, et je crois que c'est ce long silence qui fait aussi que d'autres, eh bien, disons, en profitent pour dire non, non, ça n'a pas existé, ce sont des choses que la seconde génération découvre, exagère, amplifie, etc. Et justement, Sloterdijk est quelqu'un qui est né en Allemagne en 1947. Et je vais justement en parler. Je crois que ce n'est pas pour rien que Sloterdijk est un Allemand et qu'il est né juste après la guerre. Et c'est quelqu'un évidemment de très curieux et de très critique. Donc lui sans doute n'a pas été de cette première génération qui n'a plus voulu entendre parler ni des camps, ni des parents et des oncles, etc., qui avaient été nazis. Et donc on verra ce que ça donne. Alors le révisionnisme, c'est une autre attitude qui est une forme moindre de négationnisme, me semble-t-il, qui consiste à relire le passé et à le relire d'une manière volontairement biaisée, en minimisant les faits ou en aggravant les faits. Mais le révisionnisme, c'est revoir l'histoire, la relire d'un certain point de vue. Selon les cas, on reconstruit un passé qui nous arrange, qui arrange les acteurs présents. Et puisque les acteurs passés ne sont plus là pour témoigner, s'ils sont écrits, ben on interprète les écrits, etc., eh bien, c'est un procédé courant de réarranger l'histoire à sa sauce. On sait bien que les livres d'histoire, eh bien, tous les 10 ans, on les réécrit pour les enseigner dans les écoles, et que d'une période à l'autre, ces livres d'histoire changent beaucoup, surtout évidemment sous certains régimes. Le révisionnisme était un procédé courant déjà du temps du communisme lui-même. Le communisme lui-même avançait, et puis prédisait des choses, puis ces choses n'arrivaient pas, et donc il fallait dire quand même que les prédictions avaient toutes été accomplies, donc on niait qu'elles avaient été faites, etc. Donc c'est un procédé habituel. Et par exemple, Trotsky, tout le monde sait bien que Trotsky a été un acteur très actif de la Révolution, mais lorsque Trotsky apprit qu'il n'avait joué aucun rôle dans la Révolution, il sut que son arrêt de mort avait été signé. On a nié qu'il avait participé, qu'il était même un contre-révolutionnaire, donc il a très bien compris, parce qu'il était dans cette logique-là lui-même, que son arrêt de mort était signé. Il a été assassiné au Mexique ensuite. Voilà, donc ça arrange les acteurs actuels d'accepter ou de refuser la participation de quelqu'un dans le passé à ceci ou à cela. Ça, c'est le révisionnisme. Dans le roman 1984 de Orwell, avec le Big Brother, vous avez aussi quelqu'un qui révise sans cesse les journaux du passé pour voir s'ils ont bien dit la vérité sur le présent. Et s'ils n'ont pas dit la vérité sur le présent, bien, il faut découper les articles, les réécrire, parce que le gouvernement, par exemple, ne pouvait pas se tromper sur les prédictions agricoles ou n'importe lesquelles que le régime avait proposées. Les procès de Nuremberg et de Tokyo. Alors c'est une idée qui circule un peu pour l'instant et que je trouve très intéressante. Je l'ai entendu exprimer de diverses parties récemment. Tout le monde sait qu'après la guerre 40-45, il y eut le procès de Nuremberg. Un procès qui a évidemment extrêmement intéressé beaucoup d'acteurs historiques et politiques, et qui condamna clairement le nazisme et ses crimes de guerre. C'était donc un procès grand spectacle, si on veut, où on suivait les choses et où on s'est bien rendu compte donc, qu'il y avait des criminels de guerre qui ont été exécutés. Le même procès s'est déroulé à Tokyo par rapport aux Japonais qui également avaient fait donc cette guerre. Et là aussi, il y a eu des condamnations, des exécutions, etc. Ce procès a duré de mai 46 à novembre 48 pour être complètement bouclé. Hein. Et voilà, l'empereur fut préservé. Hein. On n'a pas voulu toucher à l'empereur qui avait une stature divine. Et voilà, donc ces deux procès ont conclu, si on veut, ont conclu la période de la guerre et la période du nazisme. Mais voilà l'idée nouvelle et intéressante que j'ai entendue récemment. Après la chute du mur de Berlin, en 1989, il n'y eut aucun procès. Il n'y eut aucun procès. Il n'y a pas eu de grand procès à spectacle comme Nuremberg ou Tokyo, pour dire que ce régime qui s'effondrait avait été un régime criminel. Il n'y a pas eu de ça. Bon, il y a eu la pendaison de Ceausescu, le jour de Noël 1989, si vous vous en souvenez. Assez spectaculaire.
Il n'a pas été fusillé.
Pardon ?
Il n'a pas été fusillé.
Fusillé, sans doute, oui. Je me trompe. Il y a eu quelques procédures en Pologne, je crois. Je ne sais pas exactement lesquelles. Mais beaucoup de pays communistes n'ont pas connu de procès. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas eu de leçons tirées de cette catastrophe. Il n'y a pas eu un espèce de jugement de l'histoire sur ce qui s'était passé. Et donc, on est passé de manière soft, pourrait-on dire, d'un régime à un autre, sans avoir déclaré Urbi et Orbi, que le régime précédent n'avait pas tous les mérites. Là, on n'a rien dit. Hein. On est passé donc de cette manière-là à autre chose. Et beaucoup disent que justement cela pèse aujourd'hui sur l'histoire. Et qu'il y a encore beaucoup de politiciens de l'ancien régime qui en fait ont refait surface dans le nouveau régime et qui par opportunisme finissent par trouver évidemment de bonnes places et parfois continuent à utiliser les méthodes d'auparavant, celles qu'ils connaissent bien et qui fonctionnent. Donc voilà, quand nous essayons de faire l'Europe, etc., avec des pays comme la Hongrie, nous avons reçu ici quelqu'un qui parlait, un Hongrois qui a parlé de son pays et qui nous expliquait cela, que nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe en Hongrie parce que nous ne comprenons pas comment ce régime a basculé, mais sans basculer. Sans qu'il y ait une clarification des événements précédents. Alors, donc, je dirais, lorsque ces procès n'ont pas lieu, eh bien, après, on peut tout raconter. Hein. On peut tout raconter, on peut tout justifier, on peut tout reprendre, on peut... voilà, personne n'a rien fait, tout le monde recommence à zéro, et quoi hein. Donc, c'est évidemment le terrain idéal pour... Eh bien, pour le négationnisme et pour le révisionnisme. Et donc pour ces espèces de fake news à long terme, qui ces mensonges de l'histoire qui parviennent à survivre et à influencer donc toute notre histoire. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui par fake news, c'est un phénomène un peu différent. C'est... voilà un événement ponctuel qui est évident aux yeux de certains et qui tout à coup est décrit d'une autre manière par quelqu'un d'autre, par un autre groupe, par un groupe de presse. Le nombre de participants à la prestation de serment de Trump, par exemple, on discute pour savoir s'ils étaient nombreux, s'ils étaient peu, s'ils étaient pour, s'ils étaient contre, enfin voilà, des choses comme cela. Et... Trump ne se gêne pas pour dire que oui, il y a différentes interprétations, c'est normal, il y a même une vérité alternative, il y a même des faits alternatifs. Bon, alors des interprétations alternatives, ça on est bien d'accord, mais vérité alternative un peu moins, et des faits alternatifs, là, on trouve qu'on pousse un peu le bouchon loin. Il y a une certaine audace à dire, vous voyez quelque chose, là, ça c'est ce que vous voyez, mais moi je vois autre chose à la même place, c'est un fait alternatif. Et voilà, vous voyez du vert, moi je vois du jaune, c'est alternatif, on a le choix, ben, c'est un peu comme ça. Quoi, hein. Pardon ? Voilà. Alors, ça se fait aussi parfois par des images simplement, pas par un discours, mais par des images. Je me souviens d'un petit clip de YouTube très amusant où on voyait Trump rendant visite au pape. Et alors ils étaient là, l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si vous avez vu ce petit clip. Alors Trump commence à chipoter avec la main du pape, et le pape fait comme ça, paf, hein, puis ils reviennent à la normale. Alors cette image a circulé, et énormément de gens l'ont cru. Moi je ne le crois pas, mais peut-être que c'est vrai, mais qui sait, hein? Qui sait ce petit YouTube qui a été trafiqué, vrai ou faux. Alors, en tout cas, voilà, ça sert la cause de certains de faire circuler ce genre de choses. Alors, les fake news, j'avais annoncé cela un petit peu comme point de mire de tout notre cours. Je crois que pour arriver à le juger maintenant, eh bien, il faut faire une recherche longue, elle a été assez longue, oui, sur ce qu'est la vérité, sur ce que sont les niveaux de vérité, sur ce que sont les domaines de la vérité. Hein. Faut-il s'étonner qu'il y ait des fake news ? La vérité du fake news ou son mensonge n'est pas la même chose que la vérité d'un fait scientifique ou l'erreur d'une équation mathématique, hein, ou que l'interprétation d'une science humaine. Je crois qu'il faut voir tous ces niveaux, hein, pour essayer de se rendre compte de ce que c'est les fake news. Et je crois que, ici je vais vous parler maintenant, avec Hannah Arendt, du mensonge politique. Lying in politics.
Et l'ami Simon Apollo 11.
Oui, je vais en parler aussi. Le mensonge politique a toujours existé. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, il a de nouvelles caractéristiques avec les fake news. Je dirais que c'est un effet de masse. C'est un effet en temps réel. Je les ai mis là dans la conclusion. Et il y a un effet de désinhibition. Hein? De désinhibition, d'audace, hein, d'insolence, d'impudence dans l'affirmation de ce qui n'est pas, qui nous heurte. Alors, en effet, Apollo 11, non, je dis encore une chose, c'est que ce que nous avons vu sur les neurosciences, sur l'intelligence artificielle, et toutes les prédictions effrayantes qu'on nous a fait là autour, je crois que ça participe un peu des fake news aussi. Alors, évidemment, il y a un problème énorme. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle? Comment va-t-on utiliser ça, ne pas se laisser entraîner? Les neurosciences également. Mais toutes ces prédictions... Hein, ben, à mon avis, ce sont un peu des fake news. Hein. Alors, Harari, par exemple, nous prophétise dans ce livre que la race humaine va disparaître le prochain millénaire. Bon avec ça, c'est quand le prochain millénaire, hein? On peut prédire ça, hein? On peut prédire ça. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, hein? À part nous mettre la frousse, hein, aux tripes, à quoi ça sert de dire ça, hein? Alors peut-être bien sûr qu'il faut gérer le futur, ça c'est évident. Mais faire des prédictions comme ça, pour moi, c'est vraiment des fake news gratuites à un certain niveau, à long terme. L'évolutionnisme aussi, hein, on l'a étudié, c'est une certaine théorie, une low level theory, comme on a dit, hein, qui a certains côtés évidemment indéniables, mais en même temps, il y a toute une idéologie, hein, qui est transmise par cela, le matérialisme de l'homme. L'esprit n'existe pas, tout est matière. Hein. L'esprit n'a aucune supériorité par rapport à la matière. Et cette agressivité dans la sélection. Hein. Voilà, ce sont les deux éléments, je trouve, idéologiques de cette théorie. Alors, la mission Apollo 11, ça c'est une chose qui m'a intéressé. Il y a peu de temps, on a fêté les 50 ans de l'homme a marché sur la Lune. Hein. Un homme a marché sur la Lune. Et je connais des gens très intelligents et très informés qui m'ont dit « Non, ça n'a jamais existé, ça c'est un truc de Hollywood, hein, ça a été filmé en studio, mais ça c'est de la blague. » Et celui qui me disait ça, entre autres, eh ben, c'était un ingénieur informaticien très très calé, hein, que je respecte beaucoup, qui disait « Non, je connais les ordinateurs, je sais qu'avec leurs ordinateurs, ils ne pouvaient pas faire ça. Impossible. » Voilà la raison qu'il avait, hein. Mais évidemment, je crois qu'il faut mieux s'informer un petit peu, ne pas faire des jugements a priori sur ce qu'est capable de faire un ordinateur il y a 50 ans et aujourd'hui. Il faut s'informer. Et alors je vous dis rapidement, hein, deux, trois faits que vous ignorez peut-être ou que vous connaissez. Il y a eu 122 missions Objectif Lune, dont à peine la moitié a réussi son objectif. Alors, quels étaient les objectifs? Au début, ils étaient très modestes. Survoler la Lune, une mise en orbite autour de la Lune, atterrir sur la Lune, quitte à faire l'impact de s'écraser sur la Lune, mais envoyer un objet sur la Lune, l'atterrissage sur la Lune. Alors là, oui, il y a 50 ans, on a atterri sur la Lune une fois, n'est-ce pas? Non, il y a eu 20 atterrissages réussis. 20 atterrissages réussis, 14 par robot et 6 avec un équipage humain. 6. Et de ces 6 avec équipage humain, tous américains, c'est Apollo 11, 12, 13 à rater, 14, 15, 16, 17. Tous ont réussi et chaque fois, plusieurs hommes ont mis le pied sur la Lune. Il y a eu 12 hommes au total qui ont marché sur la Lune. Alors, la meilleure preuve que c'est vrai, ça je l'ai entendu dans une émission et je trouvais ça tout à fait intéressant, la meilleure preuve que c'est vrai, c'est pas de regarder les ordinateurs, c'est pas de regarder les images, c'est que l'URSS n'a pas nié. L'URSS n'a pas nié. Alors là, on a un argument, un argument vraiment d'un tout autre ordre. Mais c'est tout à fait évident parce que nos deux pays là étaient engagés dans une course et tous les deux mois on lançait quelque chose à cette époque-là. Et dans cette course qui a commencé en 1958 avec l'URSS, il y a eu URSS en 58, USA en 58. Et puis c'était le ping-pong, chacun a lancé son satellite ou sa fusée, etc. Il y a eu 10 alternances, 10 ratés. La 11e et la 12e mission, on change d'alternance, sont toutes deux réussies et c'est l'URSS. Donc là, là vraiment, les États-Unis sont mis sur la touche. Elles sont toutes les deux réussies. Une, c'est de l'impact sur la Lune et l'autre, c'est un survol de la Lune, un survol maîtrisé. Et puis de nouveau, alternance de l'un et de l'autre, etc. 14 ratés. Vous vous rendez compte, 10, 2 réussis, 14 ratés. Donc, on se surveille, On se surveille du coin de l'œil, il ne s'agit pas de laisser l'autre devancer. Et enfin, il y a eu, en 64 et 65, 3 opérations réussies des USA, 3 impacts. Et ensuite, il y a eu, ces fameuses alunissages qui ont réussi, 6, de la part des Américains, avec chaque fois 2 hommes sur la Lune. Bon. L'URSS n'a pas nié. Voilà la preuve scientifique, s'il en est. La plus grande, mais la plus convaincante. Voilà, alors je vous propose maintenant la pensée d'Anna Arendt. Donc c'est une femme juive, née en 1906, qui a fui l'Allemagne nazie, évidemment, qui a travaillé dans l'entourage de Heidegger, grand philosophe, et qui a participé comme journaliste philosophe au procès de Eichmann. En 1964, donc un criminel de guerre nazi a été retrouvé. Les Israéliens l'ont amené à Jérusalem et il y a eu un procès. Ce procès, a évidemment fait la une des journaux pendant un certain temps et elle a été envoyée comme journaliste du New York Times. Et donc elle faisait des rapports, elle faisait des articles, etc. Elle réfléchissait. Alors elle a écrit Vérité et politique, je crois que c'est mis sur votre feuille de route, comme conclusion de toutes les attaques dont elle avait été l'objet en écrivant ces articles. Donc elle écrivait et on niait ce qu'elle rapportait. On disait que ce qu'elle rapportait n'était pas ce qu'on avait dit au procès. Et ce qu'on avait dit au procès n'était pas la vérité. Et ainsi de suite, les mensonges autour de ce travail du procès s'accumulait, et elle-même était accusée sans cesse de mentir. Alors elle a réfléchi aux mensonges dans la politique. Alors les auteurs qui comptent sur ce problème, c'est Leibniz pour cette petite division en vérité de raison et vérité de fait. Ça c'est Leibniz. Kant est un auteur aussi très important. Ricoeur, Anna Arendt. Mais je n'ai pas mentionné aussi Platon, Machiavel, Hobbes, Tout ça, ce sont des penseurs politiques qui ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est la politique, comment fait-on la politique. Alors regardez, pour Leibniz, qui était un grand mathématicien, mais qui aussi était un diplomate, hein, il a fait différentes missions pour la Prusse, je crois. Bon. Eh bien, il y a les vérités de raison, c'est-à-dire les vérités mathématiques, scientifiques, et puis les vérités philosophiques, qui sont différentes. Pour lui aussi, la philosophie n'est pas une science, hein, mais c'est quand même une vérité de raison qui est démontrée par la raison, au même titre que les vérités mathématiques. Et puis, il y a des vérités de fait, la matière factuelle, ce qui se passe. Les faits. Est-ce que je suis ici, maintenant, à tel moment, dans cette pièce? Oui ou non? Ben ça ne se démontre pas. Hein. Il y a des témoins qui peuvent dire qu'en effet, je suis ici, maintenant, et ils peuvent le rapporter demain ou après-demain. Des témoins qui seront d'autant plus crus qu'ils sont impartiaux, évidemment. Hein. Le témoin doit être impartial. S'il y en a beaucoup, c'est bien. S'ils sont tous impartiaux, c'est encore mieux. Hein. Mais ça, c'est une vérité de fait, c'est pas une vérité de raison. Vous avez beau réfléchir tant que vous voulez, vous ne pouvez pas déduire, hein, démontrer qu'un tel est dans cette pièce à tel moment. Les vérités mathématiques, eh bien, le contraire, c'est l'erreur. Un mathématicien peut faire une erreur. Ou l'ignorance. Ben, si je ne suis pas mathématicien, évidemment, je ne sais pas comment ça marche, ben voilà. Ça s'oppose à la vérité mathématique. C'est l'erreur ou l'ignorance de l'ignorant, tandis que les vérités philosophiques, ce qui s'oppose à la vérité philosophique, c'est l'illusion et l'opinion. L'opinion. Alors ça, c'est un mot très très important, parce que pour Socrate, tout ce qu'il a commencé à faire, Socrate, comme réflexion philosophique, c'est de lutter contre l'opinion, de démonter la pure opinion. L'opinion, ça veut dire, je crois que c'est comme ça, et j'ai jamais réfléchi, mais c'est comme ça. Hein. Et j'en suis convaincu. Mais c'est une pure opinion, une doxa. Alors l'opinion, voilà, ça c'est vraiment l'ennemi numéro un, hein, du philosophe grec, qu'est Socrate, Platon, Aristote. La doxa, la pure apparence. Dokei, il me semble que. Hein, dokei. Il me semble que la doxa. Alors, il y a un autre sens du mot doxa, c'est évidemment la gloire. Hein. Mais on comprend la parenté, parce que c'est l'apparence glorieuse, hein, ou l'apparence que l'on voit, voilà, la doxa. Les champions de la doxa, ce sont les sophistes. Justement, tous ces philosophes que Socrate et Platon combattaient, en disant, mais réfléchissez, n'essayez pas d'avoir le plus de gens possible derrière vous qui disent que vous avez raison. Amenez-les à réfléchir. Et même si cette réflexion vous amène à des conclusions qui ne vous font pas plaisir, si c'est les vraies conclusions qu'il faut tirer, il faut avoir ce courage. Hein. Il ne faut pas faire de la démagogie avec des sophismes. Voilà, l'opinion, eh bien, l'opinion du premier venu sur le marché. Voilà, vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous dites qu'est-ce que vous croyez de ceci, et bien voilà. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit une pure opinion. Vous n'allez pas tomber sur un politologue ou sur un scientifique, sans doute, qui va vous faire un traité. Et s'il commence son traité, on va lui dire, non, ça va, il faut répondre en 4 secondes. Donc, il n'aura pas le temps de faire son traité. Voilà. Alors là, pour convaincre quelqu'un de sciences mathématiques, il faut faire un dialogue individuel. Platon est le champion du dialogue individuel. Il prend un esclave qui ne sait rien de mathématiques et puis il l'aide petit à petit à démontrer le théorème de Pythagore. Voilà, ça c'est le dialogue de Platon. Une pédagogie, une maïeutique. Tandis que pour les vérités philosophiques, là aussi il y a une démonstration, une réflexion, mais pour entrer dans le jeu du sophiste, il faut une rhétorique. Une rhétorique. Et Aristote a bien développé la rhétorique, il n'est pas pour une rhétorique sophiste, non, mais il sait bien que pour lutter contre les sophistes, il faut développer une rhétorique qui persuade. Persuader, ce n'est pas démontrer. Persuader, c'est amener celui qui écoute à adhérer avec quoi? Ben avec son cœur, avec ses passions, avec son intelligence un petit peu aussi, mais enfin surtout avec ses intérêts, etc.
C'est ce que font les sophistes aussi.
Oui, exactement. Mais donc, c'est l'étude de la rhétorique, hein, qui est le problème, je dirais, du départage entre la doxa et la vraie philosophie. C'est ça que je veux dire. Hein. Alors, la vérité de fait, eh bien donc, ce sont des faits qu'on ne peut pas démontrer, on peut juste en témoigner. J'étais là, j'ai vu ça. Et plus le témoin est impartial, ça veut dire qu'il n'a rien à voir, n'a aucun intérêt à témoigner de cette manière-là, plus il est, convaincant. Mais évidemment, ces témoins impartiaux, s'ils ont eux-mêmes des intérêts impliqués dans ce témoignage, eh bien donc ils sont de moins en moins fiables. Et donc quelqu'un vous dit ça s'est passé comme ça, mais vous savez qu'il est du parti de gauche ou de droite et que c'est intéressant d'être, hein, que ce soit ce témoignage-là qui prime, alors vous ne le croyez pas. Vous dites il ment, hein, ou il trafique la vérité. Et donc il y a un passage extrêmement facile entre la vérité de fait dont on témoigne et l'adhésion que l'on a à ce témoignage par l'opinion. Par l'opinion. Hein. C'est là que j'ai mis cette flèche. Hein. Donc l'opinion, c'est de croire le témoin. Si on ne croit pas le témoin, eh ben, l'opinion a peut-être raison, parce que peut-être que le témoin ment, hein. Mais peut-être qu'elle a tort, parce que le témoin est véridique. Mais on ne fait pas une enquête, hein, chaque fois, on ne réfléchit pas. Il y a donc une collusion entre les faits et l'opinion. Alors c'est ça un peu la clé de voûte, hein, de la démonstration de Arendt. C'est que, puisque énormément de gens sont engagés avec des intérêts et des passions, hein, dans les affaires de la cité ou de la société, bon, eh bien, leur témoignage est suspect. Et donc, lorsqu'ils témoignent de faits, eh bien, on ne les croit pas ou à moitié seulement, etc. Et on se fait une opinion qui n'a pas beaucoup de fondement, de démonstration, mais on croit ou on ne croit pas le témoin qui a dit cela. Hein? Alors plus il y a de témoins qui disent une chose, pour les uns, eh bien, plus le témoignage est fiable, pour d'autres, au contraire. Hein? Plus il y a de témoins qui disent ça, plus on manipule. Hein? Voilà. Et la politique s'intéresse énormément, le politique s'intéresse énormément à, eh bien, ce que les gens pensent. Parce que le politique, alors là c'est de nouveau la définition de Hannah Arendt ou de Ricoeur, je voulais donner la définition de Ricoeur, le politique c'est celui qui s'occupe du pouvoir. Le pouvoir, conquérir le pouvoir, le garder, l'exercer et le garder. Le politicien, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rassembler un maximum de gens autour de lui et imprimer une direction à ce qu'il croit que la société doit faire. Son premier travail, c'est de rassembler. Il doit d'abord rassembler un maximum de votes. Hein. Alors, ça se fait démocratiquement par les votes, mais s'il n'y a pas les votes, c'est par la persuasion. Donc, rassembler les gens, leur montrer une direction, et puis, si les gens sont nombreux, eh bien, on va vraiment dans cette direction. Voilà. Mais la vie est extrêmement contingente. Le pouvoir veut changer la réalité. Tous les politiciens viennent avec un programme en disant « ça ne se passe pas bien ici, n'est-ce pas ? Donc voici un programme pour changer la réalité. Ben, » c'est très bien de changer la réalité. Mais la première manière de la changer, c'est quoi ? Ben, c'est de mobiliser les gens pour travailler à cela. Mais une autre manière de la changer, c'est de mentir sur cette réalité. C'est déjà de projeter dans le futur une réalité qui n'existe pas. Et donc le politicien travaille avec un programme, avec une fiction, avec des projections dans l'avenir pour changer la contingence, pour changer la réalité. Mais malheureusement, cette contingence, ben, elle est, comme on dit là, la désolante et obstinée contingente qui ne veut pas changer. Hein. Alors, pour la faire changer, ben, on commence par déjà la trafiquer. Hein. On commence déjà par lui donner un autre tour, une autre explication. Le politicien est là pour changer la réalité, et s'il le fait honnêtement, évidemment, ben, il dit, ben, la réalité est ceci, nous allons aller vers ça, et on va se mettre ensemble et y travailler. Mais évidemment, comme il y a des adversaires qui proposent autre chose, eh bien, il va lui-même déjà changer la réalité qui est là, dans sa description même. Et c'est déjà un premier pas vers l'accomplissement de son programme. Alors voilà, pour des gens comme Hobbes, qui sont aussi des philosophes cyniques, hein, comme vous savez, si vous le lisez, vous allez apprendre bien des choses très utilitaristes, mais pas très morales. Hein. Voilà, les mensonges sont des outils nécessaires et légitimes, hein, non seulement pour le politicien, mais aussi pour l'homme d'État. Les mensonges sont des substituts des moyens plus violents. Au lieu de faire la guerre, ben on fait de la diplomatie, et dans cette diplomatie, on ment, on cache ses intentions, etc. Si les faits sont importuns, s'ils me dérangent, ces faits-là, malheureusement, ils ont cette exaspérante ténacité que rien ne saurait les ébranler, sinon un mensonge. Sinon un mensonge. Donc je voudrais bien que cette personne-là, eh bien, ne soit pas mon adversaire. Mais cette personne a quand même des qualités, cette personne a quand même une intelligence. Je ne peux pas empêcher cette personne d'être comme cela. La seule manière que je puisse utiliser pour que cette personne ne soit pas comme cela, c'est de raconter des mensonges à son propos, hein, de la calomnier. Voilà, parce que l'exaspérante ténacité des faits est telle qu'il n'y a qu'un moyen de la changer, c'est de mentir ou de calomnier. Il y a donc une extrêmement faible frontière entre les faits et les opinions. Voilà, vous croyez que ça s'est passé comme ça, le fait, eh bien, tout à coup, devient cela. Parce que vous le croyez, parce qu'un grand nombre le croit. Le fait a changé parce qu'un grand nombre le croit. Et donc, il y a au fond une frontière extrêmement faible, dit Hannah Arendt, entre le fait et l'opinion. Et cette frontière faible est particulièrement dangereuse dans des groupes politiquement immatures, dans des groupes qui sont facilement crédules, hein, et qui sont peut-être même déjà pleins d'intérêt ou de fanatisme pour aller dans un sens ou dans l'autre. Vous avez à la note 4 là, de votre feuille de route une très belle définition de l'opinion par Valéry. Hein. Le mensonge et la crédulité s'accouplent. Le mensonge de celui qui le dit et la crédulité de celui qui l'entend s'accouplent et engendrent l'opinion. Voilà, l'opinion c'est un mensonge et une crédulité, parce que quelqu'un est suffisamment crédule pour ne pas vérifier les choses et pour croire que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, quel moyen aurais-je de vérifier ce qui s'est passé aux États-Unis à telle époque, etc. Donc il faut bien que je m'en remette à un témoin et je choisis ce témoin-là pour le croire. Alors, Hannah Arendt dit encore ceci qui est intéressant, c'est que le vrai témoin, le témoin crédible, le témoin impartial, par définition, s'il est impartial, il ne doit pas s'engager, hein, sur la conclusion qu'on va tirer du fait dont il témoigne. Dès qu'il prend parti, eh bien, il n'est plus un témoin fiable, ou en tout cas, il n'est plus c'est un témoin qu'on va suspecter. Donc, comment rester un témoin fiable tout en essayant quand même de changer les choses? Eh bien, c'est impossible, dit-elle, mais d'une certaine manière, le témoin ne peut pas passer à l'action. Dès qu'il passe à l'action, il cesse d'être un témoin fiable, un témoin désintéressé. L'homme d'action peut mentir. Enfin, je dirais... S'il ment, ça fait partie de son action. Mais le témoin ne peut pas mentir. Et il ne peut pas impliquer ses intérêts dans son témoignage. Ou bien alors, il devient lui-même un homme d'action et il n'est plus fiable. Voilà, donc il y a une instance de témoins fiables, impartiaux, qui sont au fond, eh bien, selon elle, les philosophes, les savants, les artistes, les historiens, les juges. Mais ça les condamne à la solitude du philosophe, l'isolement du savant, de l'artiste, l'impartialité de l'historien et du juge. S'ils veulent être des vrais témoins, des gens qui réfléchissent réellement sur la réalité, ils doivent éviter l'engagement politique. Dès qu'ils s'engagent politiquement, ils n'ont plus cette impartialité. Alors c'est à titre individuel, mais c'est aussi à titre institutionnelle. Il y a quelques institutions indépendantes qui doivent jouer ce rôle d'impartialité. Le judiciaire, par exemple, dans la plupart des États, le judiciaire est indépendant en principe des partis et du gouvernement, etc. C'est un pouvoir séparé, mais nous savons bien que, par exemple, en Pologne, pour l'instant, le grand problème, c'est qu'on remplace les juges. Pourquoi ? Il y a évidemment des intentions cachées derrière cela. Les universités, en principe, devraient être des académies où, de manière désintéressée, on étudie les choses. Et ces universités, normalement, devraient être soutenues par un État honnête qui reconnaît l'État lui-même qu'il a besoin de quelqu'un sur qui il n'a pas pouvoir. Quelqu'un qui est capable de dire une vérité, qui le dérange ou qui ne le dérange pas, peu importe, mais voilà. La presse aussi aurait un devoir d'impartialité. Les journaux, on sait bien, ils sont un peu de gauche ou de droite, mais certains se prétendent plus, disons, affranchis d'intérêts personnels que d'autres, mais c'est bien difficile. Voilà, donc, avec tout cela, Hannah Arendt, elle ne justifie pas la fake news, non ? Mais elle explique qu'elles sont presque inévitables et qu'il faut lutter continuellement et réfléchir de manière indépendante, ne pas entrer dans cette crédulité et bien sûr ne pas entrer soi-même dans le mensonge. Deux penseurs cyniques contemporains. Alors, Yuval Noah Harari, qui a écrit « Sapiens », Brève histoire de l'humanité, Homo Deus, brève histoire de l'avenir. Alors pour un historien, brève histoire du passé, ça va, mais brève histoire de l'avenir, ça devient un peu plus compliqué si on veut rester historien. Et enfin, 21 leçons pour le 21e siècle. Bon, un historien qui donne des leçons, c'est aussi une idée de est-ce que l'impartialité de l'historien est respectée. C'est un jeune Israélien qui n'est pas philosophe. Sloterdijk est vraiment un philosophe. On voit très fort la différence lorsqu'on lit l'un et l'autre. On a dit que Harari était un des plus grands penseurs de ce siècle. Pour moi, c'est complètement ridicule. Je m'excuse de le dire, mais complètement ridicule. Et j'ai entendu d'autres qui le disaient aussi. Mais que ce soit le meilleur vendeur de best-sellers, ça, je suis d'accord. Ça, c'est évident. Et qu'il ait des choses intéressantes à dire et qu'il nous fasse réfléchir, c'est évident. Il a énormément de culture. Bon. Mais je dirais, comme historien, en tout cas dans ces livres-là, c'est beaucoup des anecdotes. C'est pas beaucoup de faits développés comme le ferait un historien. Les trois grandes révolutions, c'est la révolution cognitive, 70 000 ans en arrière de nous, la révolution néolithique agricole, 12 000 ans, et la révolution scientifique, il y a 500 ans. Et il fait toute une histoire de l'humanité à partir de ces trois grandes révolutions. C'est très intéressant. Mais on voit bien qu'au détour de chaque paragraphe, il a une petite mise en perspective du genre l'homme, est-ce que c'est un animal comme les autres ? Oui, c'est un animal comme les autres, mais il a eu la chance de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Voilà, il est celui qui mange les autres. Bon, c'est une manière de dire, évidemment. Mais plutôt que de dire c'est l'animal le plus intelligent, non, on dit c'est celui qui finit par manger les autres. Vous voyez que c'est une réduction un peu matérialiste, bien sûr. Il met en avant une chose intéressante, c'est que l'homme a cette capacité de coopérer, de se mettre ensemble. Il n'est peut-être pas plus fort, évidemment, que beaucoup d'animaux, mais grâce au groupe et grâce à l'organisation du groupe, il parvient à avoir une évolution différente. Et donc là, il embraye sur ce qu'on a vu dans le cours sur l'évolution, avec la tendance evo-devo. Je vous souvenez, une évolution qui est aussi une question de développement de comportement, pas seulement de développement de gènes. Il dit que l'homme a évolué, évidemment, depuis 12 000 ans jusqu'à aujourd'hui, pas parce qu'il a changé ses gènes, mais parce qu'il a changé ses comportements, et ses comportements surtout collectifs. Voilà ce qu'il indique. Une de ses grandes idées, c'est que les organismes sont des algorithmes. Alors vous vous souvenez de ce que c'est un algorithme ? C'est une procédure, hein, avec des pas que l'on suit l'un après l'autre pour obtenir un résultat. Et il faut que cette procédure soit impeccablement respectée pour obtenir le résultat. Eh bien, les organismes, nous sommes des algorithmes incarnés dans de la chair. Mais nous ne sommes rien d'autre qu'un programme, comme un logiciel, hein, incarné dans la chair. Alors, les ordinateurs, c'est incarné dans du hardware qui n'est pas très organique, hein, tant que maintenant. Mais voilà. Alors, vous vous souvenez de l'exemple du grillon, ou bien de l'exemple du virage du poisson, hein, que donnait Changeux, qui montre en effet que beaucoup de comportements animaux sont réductibles à des algorithmes. Mais un tout petit comportement comme le chant des grillons, bien comme le virage du poisson dans son bocal, hein, on n'a pas encore tout expliqué avec ça. Hein. Expliquer l'organisme de A à Z, hein, avec l'algorithme, ça c'est beaucoup plus difficile. Mais pour lui, voilà. Hein. Vous voyez qu'il met en place quelques pions. Hein, la collectivité de l'homme, les algorithmes. Là-dessus, est-ce que l'esprit existe ? Eh bien, il adhère à une thèse de je ne sais quel neuroscientifique qui dit que l'esprit est une sorte de pollution mentale plus ou moins inutile. Vous avez conscience de quelque chose, cette conscience, en fait, ça ne change rien à votre comportement. Vous faites le comportement, hein, et puis vous avez conscience de faire ce comportement. Ben, c'est comme un petit radar ou une petite caméra qui est placée sur votre tête et qui regarde ce que vous faites. Mais ça ne sert à rien, cette caméra. Parce que même sans cette caméra, vous le feriez. Puisque vous êtes un algorithme. Donc l'auto-observation de la conscience et de l'esprit, pour lui, ça c'est une pollution mentale inutile. Alors là où il se révèle davantage, c'est dans le paragraphe qu'il intitule « Le grand découplage, les trois postulats sur la valeur des hommes ». Premier postulat, l'homme ne vaut que collectivement. L'homme ne vaut que collectivement, par l'importance de la population à laquelle il appartient. À nouveau, hein, ça répond un petit peu à ceci. Mais ça veut dire qu'un Américain ne vaut que parce qu'il appartient aux États-Unis. Qu'un Chinois, en fait, appartient à la Chine, c'est ça qui fait sa valeur. Les hommes sont devenus très nombreux, trop nombreux, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, d'accord, mais il y a quand même des blocs, hein, des pays qui s'opposent, parce que la vie se résume surtout à manger et faire la guerre. D'après ce qu'il dit, hein, donc une fois qu'on a bien mangé, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se disputer, quoi, hein, et donc, alors les pays vont se disputer. Et donc, c'est important d'avoir une armée importante, pour se battre avec l'autre, mais aujourd'hui on n'en est plus aux armées. On n'en est plus aux armées, on en est au matériel. Le matériel comme les tanks, mais mieux. Le matériel comme la cyberattaque, etc., et les drones, et tout ce qu'on veut. Donc, en fait, voilà, l'homme ne vaut que collectivement, les collectivités s'opposent, font la guerre, et la meilleure guerre, c'est évidemment celle que font les machines. Nous, on n'est plus capable de faire la guerre, on ne va pas aller se battre à la baïonnette et tout ça, donc il faut des machines. Mais qui va commander ces machines? Eh bien, voilà, donc c'est la seconde catégorie d'hommes. La première, c'est les collectivités. La seconde, c'est les hommes capables de faire marcher les machines. C'est l'homme transhumanisé. C'est l'homme augmenté qui est capable de faire marcher tout cela. Et c'est lui, au fond, qui va être au-dessus de la masse. Va être au-dessus de la masse pour faire marcher les machines. Donc voilà, il y a la collectivité et puis il y a ces quelques super hommes, surhommes, qui vont diriger les choses. Les hommes augmentés qui auront un peu tous les droits, qui auront un peu toutes les possibilités en main et tous les droits. Mais il va même encore plus loin. Les hommes eux-mêmes ne sont que des algorithmes, ne sont eux-mêmes que des machines. Et il y a des machines qui marchent mieux que les machines que nous sommes. Donc il faudra faire une place aux machines, à égalité. Et donc pour lui, dans un conseil d'administration, c'est un exemple qu'il prend, on pourrait très bien faire siéger un ordinateur. Et il vote comme les autres, et il prend des décisions comme les autres, et on verra bien que finalement, c'est celui qui a le plus de poids dans un conseil d'administration. Et donc, il faudra donner une personnalité à ces machines. Personnalité juridique, personnalité financière. Donc, cette machine pourrait être propriétaire d'une entreprise, par exemple. Mais pas monsieur un tel, ni les actionnaires X, Y, Z. C'est tel ordinateur qui est très performant, qui possède l'entreprise et qui fait la guerre économique à un autre ordinateur qui possède une autre entreprise et qui a aussi un compte en banque, etc. Donc, alors, voilà, ça, c'est un peu vraiment... de la science-fiction, mais il propose ça comme quelque chose qui lui semble assez évident. C'est assez évident. Alors, bien sûr, on a dit que l'homme était une histoire sacrée, et que la vie est sacrée, et que l'homme est sacré, mais il termine son chapitre en disant « Moi, je ne vois rien de sacré dans la vie d'un clochard. » C'est vrai que je ne vois rien de sacré dans la vie d'un clochard. Bon, ben, nous sommes tous d'accord que la vie d'un clochard, c'est un problème, que c'est difficile à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, mais déclarer simplement que voilà, il ne voit rien de spécial dans cette affaire-là, c'est évidemment un peu cynique. Alors, les fake news, dit-il, sont éternelles. Elles sont éternelles. Poutine et la Crimée, c'est l'exemple qu'il prend, l'Ukraine, etc. Ben, c'est depuis toujours comme ça. Depuis toujours. On invente des histoires, on invente un droit, on invente un peuple. L'Ukraine appartient à l'URSS depuis toujours parce que la sacrée et sainte nation russe possède l'Ukraine, quoi, c'est comme ça. Et l'Ukraine n'existe pas. Ça, c'est une fake news, mais c'est une fake news qui marche très bien et qu'on impose. Alors voilà, il cherche un peu ces exemples dans tous les côtés. Du côté, il est aussi anti-sioniste, parfois, pas toujours. Il y a des bonnes fake news aussi. Il vante un consul portugais qui avait fait 30 000 visas pour des juifs et qui les a sauvés de cette manière-là. Voilà, une belle fake news qui a bien marché. Et la religion elle-même est une gigantesque fake news. Alors je vais vous lire quand même une petite page. J'ai bien conscience d'en choquer plus d'un en assimilant la religion aux fake news. Mais il s'agit exactement de cela. Quand un millier de gens croient une histoire inventée un mois durant, ce sont des fake news. Quand un milliard de gens y croient un millénaire, c'est une religion. Le christianisme est une fake news qui a déjà 2000 ans, quoi. Et on nous somme de ne parler de fake news pour ne pas froisser les fidèles ou encourir leur colère. Observez cependant que je ne nie pas l'efficacité ni la bienfaisance potentielle de la religion. Au contraire, pour le meilleur ou pour le pire, la fiction compte parmi les instruments les plus efficaces de la boîte à outils de l'humanité. En rassemblant, les credos rendent possible la coopération humaine sur une grande échelle. Coopération humaine, la collectivité. Ils poussent les gens à construire des hôpitaux, des écoles, des ponts, en plus des armées et des prisons. C'est quand même mieux un hôpital qu'une prison. Adam et Ève n'ont jamais existé, mais la cathédrale de Chartres reste très belle. La Bible tient largement de la fiction. Alors je vous signale qu'il liquide la Bible en 3 pages, parce qu'il a trouvé quelques erreurs historiques dans l'Ancien Testament. Il y a aussi énormément de vérités historiques, mais enfin il a trouvé quelques erreurs historiques, donc c'est terminé. La Bible tient largement de la fiction, mais elle peut encore procurer de la joie à des milliards de gens et encourager les humains à la compassion, au courage et à la créativité. À l'instar d'autres grandes œuvres de fiction comme Don Quichotte, Guerre et Paix et Harry Potter. Voilà. Donc vous voyez que ça c'est les fake news selon... de 21 leçons sur. Alors, je vous dis un mot de Peter Sloterdijk, né en 1947, très marqué par la guerre et par toutes les guerres d'ailleurs. Il est complètement anti-nazi, complètement anti-communiste, il est anti-tout à peu près, il a étudié la République de Weimar, donc entre les deux guerres, et puis il a étudié la guerre, et puis il a été nourri, je pense, par des horreurs, en tout cas il en raconte beaucoup. Il est professeur de philosophie à Karlsruhe, Et je crois qu'il développe beaucoup mieux qu'Avary l'histoire. Il ne fait pas que raconter des anecdotes, il approfondit les exemples qu'il donne. Mais il se moque de tout le monde. Donc beaucoup de ses titres, d'ailleurs, sont des pastiches. Comme par exemple, Critique de la raison cynique. Pour un philosophe, critique de la raison pure ou de la raison pratique. Ça, c'est vraiment intéressant. Critique de la raison cynique. La psychologie des hauteurs contre la psychologie des profondeurs. Tu dois, Dumoust, opposé à Du Solst de Kant. Le tu dois moral, mais non, c'est tu dois par nécessité de causalité naturelle. À la recherche de l'insolence perdue. Et voilà, ainsi de suite. À peu près tous ces titres sont des pastiches et des moqueries. Alors, il dit quand même quelque chose d'extrêmement intéressant en disant que voilà, les sept épisodes issus de l'histoire de la dérive vers la chute libre. Il considère que notre civilisation est en pleine décadence. Et voilà sept épisodes de cette histoire de décadence. L'exécution de Louis XVI. Ben oui, donc le passage de l'Ancien Régime à la Révolution française. Le sacre de Napoléon. Grand mensonge, évidemment. Grande manipulation. La naissance du mouvement Dada, je crois que ça, c'est pas aussi important, mais enfin, bon. Le massacre du tsar Nicolas II et de sa famille, commandité par Lénine en 18. Donc tout ça, ce sont des actes d'audace incroyables, où il y a une complète désinhibition. Voilà, un de ses grands chevaux de bataille. L'homme est complètement désinhibé. Depuis la Révolution française, et encore plus depuis mai 68, la désinhibition, l'exécution de 19 trotskistes en 1938. Le discours de Himmler le 4 octobre 1943 à Poznań. Alors, il faut aller lire sur cette affaire, mais c'est absolument incroyable. En effet, Himmler est déjà convaincu qu'il va perdre la guerre, et il fait un grand discours pour expliquer que il faut continuer et qu'on va dominer le monde, etc. Alors que, paraît-il, selon lui, il a déjà pris contact avec des gens qui fomentaient un attentat contre Hitler. Les conférences monétaires sous la couverture or en 1944 et en 1971. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des décisions économiques qui ont désinhibé les détenteurs de l'argent à l'égard du risque. Voyons bien là qu'il y a quelque chose d'intéressant dans sa réflexion. Alors, par exemple, voilà le genre de formule qui dit « Ça nous a instauré un style macroéconomique du vol en piqué contrôlé. » Voilà. Et alors, aujourd'hui, les avions économiques ont le droit de décoller, mais plus d'atterrir. Ils doivent continuer à voler. Mais il faut que ça vole. Ça, c'est donc, il faut que ça vole. On ne peut jamais atterrir, se reposer, jouir de sa fortune, rien du tout. Non, il faut continuer à produire, à croître. La désinhibition, ça c'est un de ses thèmes donc, et je crois que là il y a quelque chose de bien vu quand même. Bien sûr, les guerres ont désinhibé la violence de l'homme. Notre culture connaît une vague de désinhibition sans précédent. C'est un retour de l'homme à l'état sauvage. À cause de la guerre, je suis dans le paragraphe « Règles pour le parc humain ».« Règles pour le parc humain ». Voilà, nous sommes à cause de la guerre, mais maintenant par la bestialisation du divertissement désinhibant. Voilà, l'homme revient à l'état sauvage, il perd complètement sa culture avec tous les jeux vidéo, avec la porno, avec tout ça. Nous sommes dans une bestialisation de l'homme. Après 45, il y avait trois solutions qui semblaient possibles, le christianisme, le marxisme, l'existentialisme. Trois fausses solutions, évidemment. On pourrait décrire l'homme comme un animal qui a échoué dans son demeuré animal. L'homme aurait dû rester un animal, quoi. Mais il a voulu être plus malin que l'animal, et maintenant, il est plus bête que tous les animaux. Et voilà. Les prochaines étapes de l'histoire humaine seront scandées, dit-il, par les décisions sur la politique de l'espèce. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces hommes qui sont devenus des bêtes, qu'on va les laisser se reproduire, oui, non, est-ce qu'on va les en empêcher? Voilà, ça c'est les prochaines étapes de l'histoire. Ici apparaît le thème du parc humain. inspiré de la politique de Platon. Platon, toujours, hein, très intéressant. Nos philosophes emboîtent le pas et expliquent que les êtres humains sont finalement des animaux dans un zoo. Voilà, des animaux dans un zoo, ils sont là, ils se comportent de manière bestiale par ce divertissement désinhibant. Alors il faut bien un directeur de zoo, évidemment. Hein. Est-ce que le directeur de zoo est fort différent des animaux ? On n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr. Il y a peut-être une différence de degré, mais pas de nature. Hein. C'est la question. Pardon ?
Les visiteurs
du zoo. Ah oui, ça je ne sais pas, les cacahuètes. Mais... Platon disait que les hommes doivent se diriger eux-mêmes, car les dieux se sont retirés. Et donc maintenant, ce sont les sages qui les remplacent. Et Sloterdijk dit, mais aujourd'hui les sages aussi se retirent. Notre culture a tout oublié. Hein? Alors les religions n'existent pas. Hein? Ça c'est une grande nouvelle aussi, les religions n'existent pas. La preuve, inventer une religion, vous allez voir que ça marche. Inventez-en une. Alors il donne des exemples de gens qui inventent des religions et ça marche. Alors très curieusement, le premier exemple c'est Pierre de Coubertin. Il a inventé la religion du sport. Ben voilà. Et le second exemple, c'est la scientologie. Alors voilà, il est donc pendant 40 pages, il a tout examiné sur la scientologie. Et c'est évidemment une opposition féroce à l'idée d'un retour du religieux. Tout ça aussi, c'est une fake news. Voilà, je ne vous parle pas plus de Sloterdijk, c'est un auteur assez compliqué, qui écrit vraiment à l'allemande, hein, mais qui est bien conscient de, voilà, d'une grande décadence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, on n'en sait rien, il faut un peu tout démolir, on verra bien après. Hein. C'est évidemment un disciple de Nietzsche, hein, et donc l'homme à venir, ben, on ne sait pas très bien ce qu'il sera, mais il va venir. Conclusion de tout cela, quelle attitude adopter ? Eh bien, face à ces fake news et à cette prolifération du mensonge dans notre société, mensonge qui est nécessaire, semble-t-il, à la direction politique des États, eh bien, d'abord une définition, il me semble que la fake news, ce n'est pas un mensonge classique, hein, un mensonge privé, c'est un mensonge public, qui aujourd'hui a acquis une force grâce à la manipulation de masse. Alors, cette manipulation de masse, elle était déjà très, très présente pendant la guerre. Alors, je vous rapporte deux faits. Goebbels disait « Un mensonge raconté une fois reste un mensonge. Débité un millier de fois, il devient la vérité. » Ça, c'est donc le chef de la propagande nazie. Débité 1000 fois, et il suivait simplement Hitler qui disait dans Mein Kampf, toute propagande efficace doit se limiter à des points forts, peu nombreux, et les faire valoir à coup de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà. Alors je crois que la désinformation, la propagande de masse, on la connaissait déjà. Maintenant elle passe en temps réel. En temps réel, je crois que ça fait partie de la définition d'un fake news, hein. En temps réel, tout de suite. Avant, il fallait peut-être 5 ans pour découvrir les camps du goulag. Aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui est présent avec un smartphone, qui peut filmer quelque chose, et témoin fiable ou non, voilà, on a des nouvelles. Et enfin, cette désinhibition, je crois que c'est un élément important, hein, c'est qu'on n'a plus peur de mentir de manière effrontée, devant le monde entier, certains en tout cas, hein, et ça fait partie de cette définition. Alors que faire ? Tout démolir, c'est un peu la solution de Sloterdijk. Je ne vois pas bien en tout cas où il va, hein, avec cette critique, mais une critique dont on a beaucoup à apprendre, je crois. Alors tout observer de l'extérieur, c'est la dernière leçon, je crois, hein, de Harari, observer de l'extérieur, se contenter d'observer. Alors il paraît qu'il est bouddhiste, enfin qu'il est en partie bouddhiste, hein, Harari, et donc il voit ça de l'extérieur et il observe. Et je crois qu'avec Hannah Arendt, on a une toute autre attitude, celle de la résistance. Hein, de la résistance, démasquer le mensonge, essayer d'être un témoin fiable, en étant équitable dans ses critiques. Évidemment, elle prend position, mais elle ne prend pas parti dans un parti politique. Hein. Elle essaie d'avoir la rigueur d'un historien, d'un philosophe, et d'un, etc., pour démasquer les mensonges et ainsi proposer, disons, une culture davantage de la vérité. Voilà, chers amis, je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Merci.